On le voit dans une autre partie de la Bible où Jésus enseigne à la Samaritaine. Eh ben, eux, ils sont au puits de Jacob, et puis ils disent, elle lui dit, cette femme, « Ouais, mais on adore Dieu, vous dites que c'est qu'à Jérusalem. » Et Jésus dit, « Oui, c'est à Jérusalem, mais un jour, on adorera en esprit, en vérité. » Les Samaritains étaient considérés comme des apostats, parce qu'ils s'appropriaient les promesses de Dieu, étant un mélange de peuples différents qui s'étaient liés, et qui avaient encore une sorte de religiosité autre que celle du judaïsme de base. Alors ce bon samaritain qui vient et puis qui aide ce personnage, confrontation suprême, parce que les rabbins de l'époque passent dans le chemin et le laissent au fond du chemin dans ses blessures, celui qui a été tabassé et dépouillé, et lui vient, le prend, le soigne et va plus loin. Donc là, il y a confrontation d'idéologie. Et Jésus, lui, va nous dire que Lévitique 19, c'est priorité au peuple, certes, et nous pouvons le traduire priorité à l'Église, certes, mais sans oublier, ça on le revoit dans toute la Bible, l'étranger, le différent, le non-religieux même, non pas pour l'inclure dans le peuple, mais pour montrer que Dieu pose son regard sur absolument tout le monde. On va lire un petit peu Lévitique 19, les versets 9 à 18, rapidement. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez pas d'une fausse manière par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras pas la personne la plus grande et riche, mais tu jugeras ton prochain selon ce qui est juste. Tu ne répondras pas de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas aucune rancœur contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. En gros, tu veux être béni, pense à l'autre. Tu veux m'honorer, pense à ton prochain. Donc Jésus rappelle l'essentiel, mais il pousse l'amour déjà plus loin. Même celui qui est dans l'erreur, tu peux le reprendre, mais tu ne dois pas te porter son péché, etc. Et cela, ça frustre dans ce combat de théologie d'époque. Je veux bien aimer l'autre, s'il est comme moi. Ensemble, dans le même groupe, on peut s'aimer relativement facilement. Avec moi, il sera généreux, avec moi, il me soutiendra, je l'aime comme il m'aime, je ferai la même chose pour lui. Quelque part, c'est plus facile quand on s'entend bien. Donc ça va plus loin que juste des mots. Allez plus loin. Jésus va pousser le bouchon en disant dans Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Petite parenthèse, ça se faisait à l'époque, ceux qui donnaient les courses puis les nouvelles, pour pas marcher seul, il n'y avait pas la poste, les véhicules comme aujourd'hui, ils avaient le droit légitime, selon les règles de l'Empire romain, de prendre quelqu'un avec eux sur une distance, pour ne pas être seul. Voilà. Ça, vous comprenez le cadre, pourquoi il utilise ça. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça commence à travailler là. Hein. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous sommes tous prêts, n'est-ce pas? On dit tous Amen. Amen. C'est un beau Amen, ça. Hein? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oh! Tu veux être fils? T'as entendu la leçon, là, hein? Qu'est-ce que c'est difficile? Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il ne fait pas de différence sur le fonctionnement de cette planète, de l'univers et de ses règles. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ben ouais, c'est facile. Plus ou moins. On le dit le plus ou moins, ça nous réconforte. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Il ne fait donc de différence de personne. Là, ça commence à faire réfléchir qui est le prochain. Donc je suis bien obligé de parler du prochain pour pouvoir venir gentiment sur le « comme toi-même hein. ». Jésus enseigne ces choses, mais lui, il a vécu ces choses pour nous. Ose marcher, même avec celui qui est différent. Avec ton ennemi, de la même manière que Jésus a marché au milieu de ses ennemis, et que Jésus a marché devant nous. Dieu ne fait pas de différence pour la pluie de soleil, comme on l'a vu, parce qu'il veut tous nous conduire plus loin, et ce plus loin, c'est vers lui. Ce message dérange. Faire à l'autre, à l'injuste, faire au méchant, comme j'aimerais qu'on me fasse à moi-même. Ah ! Et en fait, et si c'était moi le méchant, si c'était moi l'autre, si c'était moi l'injuste, je le suis forcément pour quelqu'un. Et peut-être que je ne le réalise pas. Parfois, on a fait un tort à quelqu'un. Pour ma part, j'avais perdu du matériel qu'on m'avait mis en dépôt-vente. J'avais un magasin qu'on m'avait donné et j'ai perdu du matériel dans les déménagements, pas en venant ici, mais d'autres. J'ai perdu pour quelques centaines de francs. Qu'est-ce que je fais? La seule chose qui vient, c'est pourvu qu'il me fasse grâce. Pourvu qu'il me fasse grâce. Après, moi, j'aime marcher juste. Et puis, ça me fait des fois, dans les boyaux, ça tord, quand on a envie de marcher juste, parce qu'on sait ce qu'on peut ramasser. Alors, je lui ai avoué, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Puis, au fond de mon cœur, j'étais là, pourvu qu'il me fasse grâce. Il m'a fait grâce. Mais s'il m'avait demandé réparation, avait-il tort? Ben non, c'est vrai que si, mais la question vient en sens inverse maintenant. Et si l'autre a perdu mon matériel, est-ce que je vais lui faire grâce ou est-ce que je vais lui taper dessus? Maintenant, celui qui veut me dire, mais écoute, tu me le dois, mais c'est justice, c'est pas un tort. Donc il a raison, donc il faut être prêt pour ce qui est juste. Mais quelle va être ma première réaction si ça arrive dans l'autre sens? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse à moi? Est-ce que je serai pour l'autre de la même manière? Je me suis deux fois fait, une fois emprunté 500 francs pour un tort, il ne me les a jamais rendus. Un autre me les a volés. Pendant des années, quand je les croisais, ça criait « Donne-moi mon fric !» Une fois, je lui ai dit « Aujourd'hui, t'en es où ?»« Ouais, c'est bon, pas de souci, viens au compte en banque. » On est allé au compte en banque, il était vide de chez vide. Donc ça n'a jamais marché jusqu'au jour où Dieu il m'a dit « Ah ouais, tu vas le garder combien de temps cette rancune ?» Et le gars, effectivement, c'est quelqu'un qui est sous tutelle, qui vit des situations difficiles. L'autre, je ne l'ai jamais revu, c'est pas compliqué. Et puis c'est un vrai arnaqueur, ma foi, c'est comme ça. Et puis il faut lâcher prise. Et puis j'ai accepté de dire « Ben c'est vrai, il ne me les rendra jamais, tant pis. » Et alors? C'est 500 francs. Ça me rappelle la parabole du serviteur impitoyable, qui a des dettes pas possibles, et le roi le libère, lui fait grâce et annule ses dettes. Il sort dans la rue, et dans la rue va rencontrer un autre qui a des dettes moindres, et il l'envoie jusqu'en prison, et il l'insulte, etc. Et le roi l'apprend, et qu'est-ce que le roi fait ? Là, il fait faire justice. Comment désires-tu que l'on réagisse face à toi ? Est-ce que tu seras prêt à agir de la même manière en fonction face à l'autre ? Suis-je le prochain d'un autre ? Jusqu'ici, on a vu que cette notion du prochain, quelque part, mais elle dérange, car le prochain de la Bible est celui qui est proche. C'est l'ami, c'est le parent, c'est l'intime. C'est celui pour qui il y a une affection particulière. Et là, on comprend pourquoi ces théologies s'opposent. Le peuple ou celui qui partage les mêmes choses dans l'intimité du Créateur. Une relation, une notion particulière de la notion du prochain. L'autre, le prochain, est pourtant particulier. Et donc, je suis particulier. Si mon prochain me dérange, répétons-le nous régulièrement. Suis-je le prochain d'un autre ? Est-ce que je dérange un autre ? Osons marcher comme ça, sous ce regard-là. Pas dans le but de chercher forcément tout ce qui ne va pas, mais de dire « Comment je fais l'équilibre juste ? » Suis-je particulier ? Suis-je un proche ? Suis-je un ami ? Suis-je un parent ? Comment est-ce que je considère l'autre ? Est-ce que j'accepte de me considérer de la même manière ? En fait, quelque part, je me dois de voir l'autre comme ça, comme je me vois moi-même. C'est une réflexion à prendre en compte. L'envie qu'on me soutienne, l'envie qu'on me bénisse, l'envie qu'on me salue, l'envie qu'on me fasse un sourire, l'envie qu'on me fasse des cadeaux. J'ai envie qu'on prenne soin de moi, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on m'accepte. J'ai envie qu'on me fasse des compliments, j'ai envie qu'on m'offre des cadeaux, j'ai envie qu'on m'offre des dons. J'ai envie qu'on prenne soin, qu'on me donne des bonnes paroles, j'ai envie qu'on me bénisse. Désolé, hein. J'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie d'exister. Non ? Ben, je dois voir l'autre de la même manière. Et là, le « comme toi-même » commence à prendre un sens. Le rabbin Hillel disait « Ce qui est détestable à tes yeux ne le fait pas aux autres. » Une phrase qui va dans le même sens est la suivante, et nous la connaissons bien. « Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. » De manière générale, on voit que l'Israélite dans la Bible, il est fier. Et il va tout faire pour que les choses se passent du moins au mieux pour lui. Même se dépasser, obtenir ce qu'il veut et ce qu'il cherche. Mais plus encore, il est prêt à se donner pour que même plus loin il réussisse. Pourvu que son nom demeure. On le voit avec le roi David, il a le temple à cœur, il a déjà tout préparé. Puis bon, ben c'est pas lui qui va construire le temple. Mais il transmet plus loin, il ne le transmet pas en disant « Non, c'est pas juste !» C'est « Waouh, ça passe plus loin !» Et puis là, il dit à son fils comment fonctionner correctement. Donc, il veut que ce qu'il a au fond de ses entrailles, ça aille plus loin. Autrement dit, il voit plus loin. On le voit avec Abraham, qui prophétise sur ses enfants, Isaac, Jacob et Jacob, il y a les 12 fils, et là, il prophétise sur chacun, pour qu'ils entrent dans l'accomplissement des promesses, qu'ils eux-mêmes n'ont pas vues. Autrement dit, ce que j'ai reçu, je le donne plus loin, et je veux que les autres en bénéficient. Donc je me dois de les traiter de la meilleure manière possible pour qu'ils puissent perpétuer. Je dois me voir dans l'autre. Es-tu une personne fière dans ce sens-là ? Ou es-tu une personne fière dans le sens orgueil ? Ça, c'est aussi une question. Souvent dans l'humanité, un homme, s'il n'a pas d'enfant, pas de descendance, il a comme un sentiment qu'il s'éteint, qu'il n'existe pas. On le voit fortement dans les films, c'est très souligné. Je n'ai pas de descendance. Mon nom va s'arrêter. Et puis, dès qu'il y a ce sentiment qui vient, il faut que j'ai un enfant, il faut que ça continue. Une fois, je vous avais fait un partage sur regarder nos enfants, aller plus loin. C'était à la rentrée, la dernière fois. Comment considérer notre descendance, comment Dieu la voit. Parce que ça fait partie de nous, c'est de transmettre. Et donc de regarder d'une bonne manière, de considérer l'autre comme notre suite pour ce qui est de la descendance, de considérer notre prochain comme de nous-mêmes, va nous rendre attentifs à comment on bâtit les choses avec les autres. Comme toi-même, je le veux, donc je mets tout en place pour que ça arrive, même si c'est l'autre qui en bénéficiera. Comme moi-même, je veux l'aimer au point qu'il puisse en profiter. Comme moi-même, comme si ce prochain, c'est moi. Ou comme si je suis ce prochain. Si quelqu'un me donne un héritage, comment je peux fonctionner afin d'honorer ? Et le regard devient tout d'un coup plus large. Essayer de sortir de son orgueil sur son « comme soi-même » qui nous arrange bien, mais dans le fait d'inclure l'autre. Comme toi-même, je le veux, je mets en place. Je suis ce prochain. Et s'il ne fait pas comme moi je le voulais, mais si tout d'un coup il allait plus loin, ou si tout d'un coup il avait un regard que je n'ai pas, mais quelque part c'est riche, voir plus loin. Dans l'Église, de manière générale, on a peut-être déjà entendu des choses comme ça, mais il y a une règle qui se dessine de plus en plus, je l'entends moins de plus en plus, peut-être parce que je commence de découvrir certaines de ces choses-là, basé sur les exemples bibliques, comme l'apôtre Paul, il prépare une relève. Dans tout ce que tu fais, pense à celui qui va venir après et qui va permettre que ça continue, même que ça va aller plus loin. On le voit de Paul avec Timothée, on le voit de différentes manières, c'est considérer l'autre, lui donner les bases pour que ça se perpétue. Donc donner ce qui est bon, et s'il va plus loin, tant mieux. Soyez soumis les uns aux autres. Regardez l'autre comme étant plus excellent. Ouh. Eh bien, c'est ça. C'est une des raisons pour laquelle Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parce qu'il vise cette perpétuité. Il vise cette continuité. Ça ne s'arrête pas qu'à toi, tout seul, dans ton coin. Et trop souvent, c'est comme moi-même, en tout cas pour moi, est bien orgueilleux. Je veux que ça soit bon pour moi. Et j'oublie le reste. J'oublie la descendance, j'oublie la relève, j'oublie le conjoint, j'oublie mes enfants, j'oublie mon église, j'oublie. Et là, Jésus veut nous amener plus loin. S'aimer soi-même, on a entendu quelque part ce matin comment Dieu nous voit dans ces chants. Dans ces chants, oui, les chants chantés. Tu dois t'aimer, si tu ne t'aimes pas, ce sera dur d'aimer l'autre. Que ça ne devienne pas l'excuse pour ne pas aimer l'autre. Souvent, le risque aussi, si on ne s'aime pas, souvent le risque est de devenir l'esclave de l'autre, ce qui est faux. Aimer l'autre, ce n'est pas répondre à tous les besoins et tous les dons et toutes les demandes de tout le monde. Ou ce n'est pas non plus devenir le dirigeant de l'autre quand on a envie que les autres nous aiment, on va leur dire comment les choses doivent se passer avec écrasement. Si on ne s'aime pas soi-même, c'est les deux risques, l'esclave et le dirigeant. Un autre risque, c'est la fuite totale. Souvent, celui qui ne s'aime pas a envie d'exister, il a envie d'être reconnu, alors il va tout mettre en place ou ne rien mettre en place. Et là, on a besoin de redécouvrir comment Dieu nous aime, afin de retrouver un équilibre dans nos vies. Et cela nous permettra d'avoir gentiment le regard sur l'autre. S'aimer soi-même, c'est reconnaître combien Dieu il t'a voulu. T'aimer toi-même, c'est que tu réalises que Dieu t'a désiré. C'est que tu réalises que Dieu il t'a attendu, comme le dit le psalmiste dans les psaumes, plusieurs fois. C'est reconnaître que Dieu t'a appelé. On le voit dans Romains 8. C'est reconnaître qu'il t'a espéré, il t'a désiré, Dieu a créé l'homme à son image, il t'a voulu. C'est accepter qu'il t'a sorti de l'enfer éternel pour t'avoir à ses côtés et te permettre de jouir de sa présence et de tout ce qu'il t'a donné, de ce qu'il veut te donner et partager. C'est accepter sa mort à la croix pour toi, l'accepter, qu'il l'a fait à ta place. Et trop souvent, on a tendance à l'oublier que c'est nous qu'on mérite ça. Et le pire dans la croix, c'est quand il crie à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autrement dit, d'être éloigné de l'Éternel à jamais. Et Dieu, il t'a enlevé, puis il t'a dit, « C'est moi, parce que je te veux. » C'est de réaliser que tu mérites que dalle, tu peux être le meilleur chrétien du monde, ça ne change rien. C'est réaliser l'amour de Dieu pour toi. S'aimer soi-même, c'est oser accepter ça. Des fois, le réaliser, on dit « Oui, je sais. » Tu le vis ? Non, c'est trop dur, je ne suis pas bon. Je ne suis pas parfait. Ou je deviendrai meilleur quand j'aurai réglé ça. Oui, toute ta vie, quoi. Accepter l'amour fou, tellement tu es précieux pour l'Éternel. Accepter qu'aujourd'hui, tel que tu es, il t'aime. C'est aussi accepter de te laisser transformer encore et encore et encore de gloire en gloire, comme le dit l'apôtre Paul. C'est accepter qu'il t'aime comme tu es. Et donc qu'il va te mener plus loin. Ça aussi, des fois, c'est l'excuse. Je suis comme ça, il faut m'accepter tel quel. Puis Dieu te dit, non, j'ai mieux. Non, je suis comme ça. Sinon, ça va changer. Ça va déranger. L'amour de soi, là, il est plus très juste. Parce que Dieu a mieux. S'aimer soi-même, c'est aussi prendre soin de soi. Prends soin de toi. Sois en plein accord avec toi-même. T'aimer toi-même, c'est te respecter, ne pas te détruire. C'est accepter qu'il y a une possibilité d'aller mieux et peut-être de permettre et de faire en sorte que ça aille mieux. T'aimer comme toi-même, c'est ne pas se dévaloriser. Et moi, je suis très champion en la matière. Ne pas se dévaloriser. T'aimer toi-même, c'est te pardonner. Parce que Dieu t'a pardonné. Et ça, qu'est-ce que c'est dur. Mais Dieu t'a pardonné. Quand tu arrives à comprendre et vivre ces choses-là, ton regard sur l'autre va automatiquement et doucement changer. Je le répète, n'attends pas d'en être là pour aimer ton prochain. Luc 7, 47 dit « Pourquoi je te dis ces nombreux péchés sont pardonnés ? Car elle a beaucoup aimé, mais à celui qui est peu pardonné, aime peu. » Accepte l'amour de Dieu. Accepte son pardon. Et le jour où tu y goûtes à ce pardon, que tu l'acceptes, tu lâches, tu laisses tomber les bras, puis que tu dis « Oui Seigneur, merci !» tu commences à comprendre comment Dieu t'aime. Oh, ça fait du bien. J'ai envie de dire, là, t'as le droit d'être orgueilleux, là. N'utilise pas cette souffrance que t'as pour ne pas avancer, parce que ça dérange. Si tu réalises ce que tu mérites sans l'amour de Dieu et sans la croix, si tu réalises vraiment le jugement de Dieu, ce qu'il en est, et qu'il n'y a pas d'amour pour toi et pas la croix, imagine ce que tu mérites. Si tu réalises à quel point c'est atroce et abominable, une réflexion qui va en découler, c'est est-ce que tu as vraiment envie que ton prochain vive la même chose ? C'est violent, hein ? Ça confronte. Si je réalise que Dieu m'a fait grâce, il veut faire grâce à mon ennemi. S'il n'a pas la grâce, il va vivre quoi ? Le jugement éternel et l'enfer loin de Dieu. Est-ce que ça, j'arrive à m'imaginer que c'est ce que je veux ? À mon ennemi. Ça peut être tellement important de réaliser ça parce que tu réalises la croix. Et ça permet peut-être un premier pas dans la réconciliation. Parce que ça, tu ne le veux pas pour toi. Ça, c'est clair. Seigneur, aime-moi. Tu seras mesuré, tu seras jugé comme tu mesures, comme tu juges, dit Matthieu 7. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Il insiste, hein? Puis ensuite, il continue, « Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça, on a tendance à beaucoup l'oublier. On te fera de la même manière que ton attitude, on te le fera de la même manière que ton, comme toi-même. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Oh là là ! Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite ! C'est Jésus qui parle, hein ? Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je vois ta paille, je la vois ! Vous avez des belles pailles dans vos yeux. N'est-ce pas ? Elle est belle, ma poutre ? Je vois ta paille, mais j'ai pas envie que tu vois ma poutre. Et à la limite, même si j'ai une paille dans mon œil, j'ai pas envie que tu la vois. Et si je ne regardais pas la paille, mais aidais à enlever la paille de la même manière qu'à ce moment-là, j'accepte que tu puisses enlever la mienne. Dans la justice de Dieu, dans les jugements de Dieu, il y a toujours, toujours, même dans les jugements les pires que l'on voit dans la Bible, il y a toujours l'espérance du retour à Dieu et donc du salut. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les lieux, dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? J'ai envie qu'on me donne, si je demande quelque chose, c'est logique, ça c'est le moi-même là qui réagit. Hein. J'ai envie qu'on me réponde. J'ai envie de trouver si je cherche. Donc c'est comme moi-même, est-ce que je vais l'enlever dans ma relation à l'autre ? Donc ne pas répondre, ne pas aider, ne pas accompagner, ne pas donner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, toujours dans Matthieu 7, là on est au verset 12 maintenant pour ceux qui regardaient, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et c'est là qu'ils signent plus spécifiquement cette notion de relation théologique avec ceux qui étaient en face de lui. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Entrez par la porte étroite. C'est ça. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Je vais faire un mauvais humour. On voit, quand on regarde ceux qui sont bien riches, quand on essaye d'imaginer quelqu'un qui est bien riche, un million, on le dessine comment ? Exactement, avec un gros bidon. Vous n'avez jamais vu ce cliché souvent quand on voit le beau riche, le cigare, le chapeau sur la tête et puis le gros ventre ? Vous n'avez jamais vu cette image-là ? Spacieux est le chemin. Et pourtant, Dieu nous dit, par la porte étroite, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et ça commence par quoi ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Une porte étroite, notre comme moi-même, comme toi-même, il commence à déranger, là encore une fois. On veut bien pour nous, mais pas pour l'autre. On veut bien ce qui nous convient à nous, mais pas forcément le faire à l'autre. Le jour où j'ai plus un centime en poche, comme je vous l'avais dit une fois, le jour où je devais téléphoner à papa pour lui dire « t'as pas un rouleau de papier de toilette ?» parce que j'avais même pas de quoi en acheter. Ça me fait tout d'un coup comprendre ceux qui sont dans la rue à tort ou à raison. Ça change un peu le regard, quoi. Une porte étroite. Jacques 4, nous dit ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le « comme toi-même orgueilleux », là, hein. Adultère que vous êtes. Ouh, merci Seigneur. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ce passage nous montre un regard sur nos cœurs, sur la convoitise, sur notre orgueil. Est-ce que c'est ça que nous sommes? Le « comme toi-même » Regardons le verset a dit ensuite « Il y a l'Esprit qui est en nous ». On a vu à Pentecôte le Saint-Esprit qui doit prendre toutes les places, qu'on est prêt à lui donner les clés de nos vies entières. Et il est chéri par Dieu, cette entité complète. Il y a une jalousie si on n'en prend pas soin. Et c'est selon lui que nous devons marcher. Selon sa parole, selon son regard qui se reflète sur nous comme sur l'autre. C'est son attitude. Alors que Dieu nous demande de regarder l'autre, de le regarder autrement. Aimons-nous si quelqu'un est envieux de nous? Aimons-nous si quelqu'un nous critique? Est-ce qu'on aime si quelqu'un nous vole? Est-ce qu'on aime si quelqu'un convoite tout ce qu'on a? Ne parlez pas en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, toi qui juges le prochain? Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que c'est de glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Là, de nouveau, ça nous change sur ce regard. Aimons l'autre de la bonne manière. Aimons-le comme nous nous aimons. Si on ne veut pas des choses qui sont contre nous, ne les désirons pas pour l'autre. S'aimer soi-même, c'est pas orgueilleux. L'humilité, c'est accepter comme tu es. Quelqu'un qui est un bon footballeur, il a le droit de te regarder et de te dire « je suis un bon footballeur ». Est-ce que c'est de l'orgueil? Mais pas le moins du monde, c'est la réalité. Celui qui va faire « t'as vu comme je suis moi le meilleur là ?» Comment tu me parles? Tu connais rien. Vous voyez la nuance? Si t'es bon, si t'es doué, si tu te sens bien dans ta peau, si tu te trouves beau, amen! C'est pas l'orgueil! La réalité de ce que tu es n'est pas l'orgueil. Je fais cette petite parenthèse. Aimons l'autre de la bonne manière, comme nous nous aimons nous-mêmes. Et là, l'orgueil ramasse, et c'est là que ça fait pas plaisir, et c'est là que ça tourne dans l'estomac et que ça dérange. Notre propre justice, notre propre protection. Mais l'autre, il réagit de la même manière en fonction de comment nous parlons avec lui. Alors, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Jésus va plus loin que la fameuse phrase de Hillel, aussi dans le sens que lui enseigne l'inverse. L'engagement Hillel restait sur le « ne fais pas ». Jésus pousse à faire. Hillel disait « ne fais pas aux autres », si vous vous rappelez, ce que tu veux pas. Jésus lui dit « fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse ». Donc Jésus va dans l'engagement, il allait dans la fuite. Ce qui est intéressant, il y a donc un engagement. Jésus nous pousse à la transformation. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Dans ce sens, il rappelle bien d'autres enseignements qu'on voit tout au long de la Bible et qui préannoncent le message de l'Évangile, par exemple dans Amos, « Recherche le bien et non le mal afin que tu vives ». Dans Ézéchiel, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu ? Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Ésaïe nous dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Puis ensuite, on va plus loin, Luc 3, il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. 1 Jean 3 nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Jacques 2 nous dit, sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? On la connaît cette phrase, la suite. La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, parenthèse, je vais prier pour toi, parenthèse fermée. Chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire pour son corps, à quoi cela sert-il ? Toute cette attitude-là, c'est lié à la foi. Et la foi, c'est j'accepte l'amour de Dieu pour moi, et j'accepte donc l'amour de Dieu pour l'autre. Oui, Dieu, il l'aime. Lui. Ce « comme toi-même transformé » devient un témoignage de notre foi, parce qu'il y a un résultat qui devient visible. Tous ces versets, si on est en situation de besoin, on aimerait pouvoir en bénéficier, c'est clair. On veut l'aide, c'est normal. Cela montre que ce que l'on désire, osons le vivre pour l'autre. Tu veux être chéri, chéris l'autre. Tu veux être encouragé, encourage. Tu veux de l'aide, aide. Regarde l'autre comme dans un miroir, en t'y voyant à sa place. Comme Jésus lui-même nous a vus, et il s'est vu à notre place lors du jugement de la croix. Désirons pour nous la réconciliation, l'amour du Père, voulant pour nous le meilleur. Aime ton prochain de la même manière que tu t'aimes toi. Vois l'autre comme si c'est toi. C'est un gros challenge. C'est un gros engagement, mais un vrai témoignage. Jean 13 nous dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Certes, on ne peut pas sauver le monde et aider tout le monde. Certes, on ne doit pas entrer dans une addiction de l'aide face à l'autre, ni dans un esclavage du soutien de l'autre, ce qui ne serait pas juste non plus. Fais-le de tout ton cœur. Mais que cela puisse nous aider, nous travailler, qu'on se laisse toucher par Dieu, afin que ce soit son cœur qui batte en nous pour l'autre. Tu veux qu'on te pardonne, pardonne. Tu veux qu'on t'aime, aime. Tu veux qu'on te respecte, respecte. La notion de respect aujourd'hui pour la jeunesse, elle est, c'est moi le plus fort, et si je les rétame tous, je serai respecté. C'est pas ça le respect. Tout ce qu'on vient de voir dans l'amour du prochain, c'est ça le respect. Mais attention, attention. L'amour n'attend rien en retour. En fait, si chaque fois que quelqu'un t'aide, t'as peur qu'on te demande quelque chose en retour, c'est pas motivant, on est d'accord. T'as envie d'être aidé parce que t'as besoin, pas pour devoir rendre. Ça devient sinon un échange, un troc. Mais c'est pas ça qui est demandé. Certains, c'est vrai, reçoivent des choses, des cadeaux, mais ne savent pas les recevoir, alors... automatiquement, ils se doivent eux-mêmes, ils se poussent à rendre. Ils se mettent l'obligation de rendre. D'autres encore ont peur d'une demande en retour, donc ils refusent l'aide. Il y a ceux aussi qui ne veulent pas devoir des comptes à rendre et qui, dans leur orgueil, aussi se refusent l'aide. Il peut y avoir différentes manières. Et ces différents points nous montrent qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais posons-nous la question, où est-ce que j'en suis dans ces points-là à l'heure actuelle ? Car là aussi, ça résonne le « comme toi-même ». T'as pas envie de donner parce que t'as pas envie qu'on te donne en retour. Ou t'as pas envie de donner parce que comme t'as pas envie de demander, comme toi-même. Est-ce que tout tourne autour de soi ? Est-ce que l'on fuit notre entourage ? Mais est-ce aussi, est-ce qu'on cherche un entourage ? Ça, c'est aussi une bonne question. Est-ce qu'à la limite, on va dans le sens inverse et on impose notre présence ? Ne sois pas étonné de comment les choses se passent autour de toi. Je ne dis pas que l'injustice est méritée, loin de là, mais Je ne peux pas m'attendre à ce qu'on me parle poliment si j'injurie. Je ne peux pas m'attendre à être invité si je critique tout le temps. Je ne peux pas m'attendre à un sourire si je tire la tête face à tous ceux que je vois. C'est aussi logique. Ce « comme toi-même », c'est un reflet de qui tu es, un reflet de comment tu fonctionnes et de comment tu fonctionnes envers les autres. C'est un reflet de ce que nous attendons. Et l'autre, donc, attend aussi. Aime ton prochain de la même manière que tu t'aimes. C'est une bonne base. Grandis en Jésus, laisse-le te travailler, te guérir, t'accompagner, te pardonner, te relever, tout ce que la Bible nous enseigne. Laisse cet amour grandir en toi, on l'a chanté. Tout à l'heure, je ne sais plus comment la phrase elle était, mais c'était mon âme qui réalisait tout cet amour de Dieu, puis qu'il fallait... Ah, non, ce n'était pas celui-là. Qu'on pouvait se laisser toucher, même dans les moments difficiles, je ne sais plus comment c'était chanté, et puis c'est dans la présence de Dieu qu'on pouvait le vivre. Laissons vraiment, agissons sérieusement, plus que le dimanche, de nous retrouver dans la relation avec Dieu, même dans les bons jours où tout va bien. Et osons dans les jours où tout va mal, d'autant plus. Je nous encourage vraiment à nous rapprocher de Dieu pour grandir, pour nous approcher de lui, pour implorer son regard qui se déverse sur l'autre, en lui demandant de nous montrer son amour pour nous, certes plus fortement, et d'accepter qu'on puisse voir l'autre comme Dieu le voit. Et plus tu vas grandir, plus le Saint-Esprit en toi va te conduire autrement. Rapprochons-nous. Demandons-lui avec insistance de comprendre et de vivre son amour. Laissons-le toucher par son amour, même si ça dérange. Accepte le regard de Dieu si extraordinaire pour toi. Et là, tu fais ce que tu veux, mais les choses vont changer. J'en suis où aujourd'hui? Comment est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que j'aimerais pour moi? Puis-je le faire pour l'autre? Seigneur, aide-moi. Si j'aime pas les autres, ça commence par moi. Seigneur, aide-moi. Ça n'excuse pas non plus ce mot, que c'est là, je le répète, ce serait trop facile de ne pas vouloir changer. Comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper des autres. Je peux ne pas m'aimer, mais avoir un vrai amour pour les autres. Et j'en connais des gens qui sont comme ça, ils ont beaucoup de peine sur eux-mêmes, mais ça se voit qu'ils ont un amour pour les autres, donc on n'a pas d'excuses. Je mets la balance tous les états que nous pouvons avoir pour bien comprendre où Dieu veut nous accompagner. Et peut-être que si on réalise là où on en est aujourd'hui, si on réalise peut-être qu'on ne veut rien donner à l'autre, qu'on est bloqué, qu'on a peur, si on réalise qu'on ne s'aime pas soi-même, ben ça nous montre où en est l'état de notre foi aujourd'hui. C'est un témoignage. Méditons là-dessus. Réjouis-toi aujourd'hui de te rendre compte d'où tu en es, en fait. Je m'aime pas ! Non. Seigneur, c'est vrai que je dois encore apprendre, puis tu me le dis ce matin. Merci. Ça veut dire que tu m'amènes plus loin. Seigneur, je réalise que j'ai de la peine à voir l'autre comme toi, tu le vois, ou même comme moi-même. J'ai envie que ça me tombe dessus. Je suis un bel entonnoir, t'as vu, Seigneur ? J'aimerais bien le transmettre plus loin. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Désire toujours plus aimer l'autre comme toi-même. J'aimerais juste terminer par cette prière. Seigneur, j'ai le désir d'aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à m'aimer et à t'aimer et te rechercher. Aide-moi à bénir mon entourage et à te remettre mon prochain. Viens, Seigneur, travaille mon cœur, parce que oui, aujourd'hui, je le désire. Aide-moi, s'il te plaît, à te refléter de la meilleure manière. Donne-moi ce regard que tu as sur l'autre, Seigneur. Purifie mon cœur. Merci, parce que je sais que c'est ta volonté, et je dis oui aujourd'hui, je le désire. Viens, Seigneur, aide-moi, même dans les temps difficiles, là où j'y arrive pas. Ben je sais que là, tu m'y apprendras à le vivre. Là, ça va travailler. Mais ça veut dire que tu vas m'aider à y parvenir. Alors je te bénis, béni soit ton nom, ce nom merveilleux de Jésus. Amen.